France Inter.
Merci beaucoup Stéphanie Duncan, à lundi. L'invité au carré, aujourd'hui...
Corinne Morel-Darleux, autrice.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ma chérie, quand on a le malheur de chercher une gouttelette de poison dans chaque fleur éclose, on trouve jusqu'à sa mort quelques raisons de se lamenter. Prends donc les choses sous l'angle opposé et cherche du miel dans chaque fleur. Tu trouveras toujours quelques raisons de sereine gaieté. En outre, crois-moi, le temps que, comme d'autres aussi, je passe actuellement sous les verrous, ce temps non plus n'est pas perdu. Il apparaîtra d'une façon ou d'une autre dans le grand règlement de compte général. Je suis d'avis que l'on doit tout simplement, sans vouloir être trop maligne, ni se casser la tête, mener la vie que l'on tient pour juste, sans exiger d'être payé sur l'instant, en espèces sonnantes pour tout ce que l'on fait. À la fin, tout sera bien récapitulé, et si ça ne l'est pas, ben je m'en fiche aussi. Même sans ça, la vie m'est une telle source de joie. Tous les matins, j'inspecte scrupuleusement les bourgeons de tous mes arbustes et vérifie où ils en sont. Chaque jour, je rends visite à une coccinelle rouge avec deux petits points noirs sur le dos que je maintiens en vie depuis deux semaines sur une branche, dans un pansement de chaude ouate, malgré la brise et la froidure. J'observe les nuages, toujours plus beaux et sans cesse différents. Et au total, je ne me considère pas plus important que cette petite coccinelle et imbue du sentiment de mon infinie petitesse. Je me sens ineffablement heureuse. Rosa Luxembourg, 1917. Bonjour Corinne Morel-Darleux.
Bonjour Mathieu Vidard.
Ce texte de Rosa Luxembourg pour ouvrir cette émission qui vous est consacrée, c'est une lettre qui a été écrite le 15 avril 1917 à son amie Louise Kotzky depuis la prison. Elle était enfermée en Allemagne. Elle sera assassinée d'ailleurs deux ans plus tard à Berlin. C'est une lettre que vous avez déjà citée.
Oui, c'est une lettre que j'ai citée comme d'autres passages de textes de Rosa Luxembourg dans mon essai « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs ». Et c'est vrai que moi j'ai puisé dans ces lettres de prison de Rosa Luxembourg beaucoup de courage, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment, pour ne pas céder au découragement et à l'angoisse du monde tel qu'il va mal.
Oui, parce que ce qui frappe vraiment dans cette lettre, c'est le contraste entre la violence de sa situation, elle est en prison, et puis cette tonalité intérieure qu'elle adopte en célébrant donc la beauté d'un microcosme qui est là autour d'elle.
Oui, c'est l'aide de Rosa Luxembourg. C'est une très belle illustration de cette manière qu'on peut avoir de s'inquiéter du monde tout en s'en émerveillant. C'est-à-dire sans sombrer dans l'angélisme, tout en restant lucide sur la violence qui nous entoure, mais sans se laisser complètement flinguer en fait, par cette violence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même des leçons très précieuses.
Donc c'est cette capacité à trouver la beauté en toute chose, quasiment ? On pourrait dire les choses comme ça ?
Oui, effectivement, c'est en tout cas de continuer à développer cette capacité à trouver de la beauté, même microscopique, même dans des interstices, parce que c'est aussi la conscience de cette beauté qui fait qu'on peut continuer à lutter et qu'on trouve encore la force et la motivation pour justement préserver ce qui reste de beauté dans le monde.
Vous êtes toujours aussi motivée pour la lutte, justement ?
Pour être tout à fait honnête, ça dépend un peu des jours quand même. Ouais. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, les fils d'actualité sont pas très encourageants, mais en tout cas oui, j'essaye de puiser chez Rosa et chez d'autres ces leçons de vie et de courage et de militantisme.
Vous dites Rosa Luxembourg, c'est votre sœur d'âme.
Ouais, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais en tout cas...
Pourquoi ?
J'aime bien l'idée qu'on puisse...
C'est une reconnaissance ?
Oui, voilà, qu'on puisse choisir des compagnes, des ancêtres, des grands-tantes, des cousines et des sœurs d'âme.
Corinne Morel-Darleux, on vous connaît donc militante, ancienne élue, on en parlera, écrivaine, on vous doit un livre en particulier, plutôt Coulé en beauté que Flotter sans grâce, qui a eu beaucoup de succès, on y reviendra là aussi. Et vous explorez depuis des années les confins de notre monde, hein, ses limites, ses effondrements, mais aussi donc sa beauté tenace. J'aimerais d'abord revenir avec vous à la petite fille que vous étiez. À quoi ressemblait votre enfance dans ce Paris des années 80 ? Dans quel milieu vous avez grandi exactement ?
Alors d'abord, moi je suis née effectivement à Paris et j'ai grandi à Paris. Donc j'étais vraiment une petite citadine jusqu'au bout des ongles. J'ai grandi auprès de parents qui avaient eu un engagement militant trotskiste très important. Qui n'étaient plus militants au moment où je suis née.
Donc ils n'étaient plus dans un militantisme actif ?
Non, voilà. C'est-à-dire que j'étais pas dans un foyer où il y avait des piles de tracts et puis des réunions politiques le soir. Mais malgré tout, je pense que naturellement, ça a forcément imprégné mon éducation et les discussions qu'on avait à la maison.
Donc il y avait un terreau idéologique, on pourrait dire les choses comme ça ?
Oui, tout à fait. Oui. Il y avait un terreau idéologique, politique, engagé, ça c'est certain.
Quelle idéologie alors ?
Une idéologie de justice sociale, une idéologie d'intérêt général, de commun, de coopération, de solidarité, des valeurs de gauche, on va dire.
Et ça, ça vous a jamais quitté ? Ou il y a eu des petites parenthèses ?
Ça m'a jamais quitté. Il y a eu des moments où c'était moins présent dans ma vie quotidienne. Mais en tout cas, je crois que je n'ai jamais été de droite.
Même si, ça ne veut rien dire, mais vous faites une école de commerce.
Oui,
après
tout
le bac,
à fait.
Vous faites ce choix-là. Est-ce que c'est une envie de rupture, finalement, de conformité ? Comment vous l'analysez ?
C'est plutôt un non-choix, à vrai dire, dans ces années-là. Voilà, quand on réussit bien à l'école, quand on est bon élève, il y a des espèces de voies toutes tracées qui font qu'on ne se pose pas vraiment la question. En fait, on est orienté de manière plus ou moins mécanique vers, à l'époque, un bac C, donc scientifique, puis vers soit une prépa d'école d'ingénieur, soit une prépa d'école de commerce. Et donc, voilà, moi je suis allée vers la prépa école de commerce parce que c'était ce qui était le plus généraliste à l'époque. J'étais particulièrement jeune quand j'ai passé mon bac, j'avais pas vraiment d'idée sur ce que j'avais envie de faire après. Donc, j'ai suivi la voie qui me garantissait a priori le plus de possibilités de métier à l'avenir.
Mais Corinne Morel-Darleux, ça tranche un peu avec le cadre familial que vous venez de nous décrire quand même, non ?
Oui, mais ce cadre familial, il allait de pair avec une période où on parlait beaucoup du chômage, où on croyait encore que le fait de faire de bonnes études allait protéger vos enfants. Et donc, je crois que mes parents avaient aussi à cœur de me mettre à l'abri. Et pour ça, de me donner les meilleures chances professionnelles par le biais des études.
Et alors, vous faites quoi exactement après cette école de commerce ? Vous entrez dans le monde du CAC 40, c'est ça ?
Oui, alors pas tout de suite. Je prolonge d'abord mes études par une thèse de doctorat britannique, un PhD, sur la vision de la réussite chez les dirigeants de PME.
Prometteur.
Voilà, qui battait déjà en brèche l'idée que la croissance économique était le seul marqueur de réussite, qui visait à démontrer qu'il y avait aussi des aspects humains, psychologiques, patrimoniaux, qui étaient aussi importants dans le fait d'être satisfait, de se sentir avoir réussi. Et après cette thèse, j'ai encore fait un petit pas de côté, puisque pendant quelques temps, j'ai eu une galerie d'art contemporain à Paris, qui était un peu une danseuse, c'est-à-dire voilà quelque chose qui était super, une super expérience avec voilà des jeunes artistes qui avaient très peu exposé, voire pas du tout, à qui on donnait une chance. Donc ça a été vraiment une période assez magique, mais qui économiquement s'est révélée absolument désastreuse. Et donc à un moment, il a quand même fallu que je revienne à des choses plus viables économiquement parlant et plus en rapport aussi avec les études que j'avais faites.
Ouais. Et c'est là que vous arrivez dans la tour totale de la défense.
Et c'est là où j'arrive effectivement dans le CAC 40 en tant que consultante en stratégie, en organisation, et que j'ai pour clients effectivement les Total Pétrochimie, Renault, Gaz de France, et puis aussi des choses un peu plus exotiques. J'ai travaillé pour des usines de freinage de poids lourds, par exemple.
Alors, vous avez une carrière très prometteuse dans ce domaine-là. Hein. Vous êtes très bien rémunérée. Qu'est-ce qui, à un moment, a fait que vous avez tout envoyé promener ?
J'ai commencé j'ai recommencé, on va dire, à regarder autour de moi. À un moment, je suis passée à 4/5e, ce qui m'a permis de lever la tête du guidon. Et à ce moment-là, en fait, a commencé, non pas la perte de sens, mais en fait, le fait de réaliser et d'être de plus en plus mal à l'aise avec le fait de consacrer mon énergie et mes compétences à faire fonctionner le système capitaliste, ces grandes entreprises qui n'en avaient pas franchement besoin au vu de, ouais. de leur taux de profit.
Et c'est venu graduellement ou il y a un moment où vous avez vraiment eu la nausée de tout ça ?
Non, je ne parlerai pas de nausée. C'est venu progressivement, c'est quelque chose d'assez réfléchi. Il y a eu des petites étapes, il y a eu des petites ruptures, des coups de canif dans le contrat, avec un effet cliquet qui fait qu'il est assez difficile de revenir en arrière. Mm-hmm. Jusqu'au jour où je me suis entendue conseiller à des clients d'embaucher en interne plutôt que de faire appel à notre cabinet de conseil, ce qui était professionnellement...
Là, il fallait arrêter, là.
voilà, pas du tout ce qui était attendu de ma part.
Ouais.
Et donc, j'ai fini par démissionner pour chercher du travail dans la fonction publique,
ouais.
pour mettre ce temps et ces compétences au service de l'intérêt général.
Il y a une scène marquante dans ce parcours où vous refusez un BlackBerry. Pourquoi ce geste, au fond, très symbolique ? Ça vous reste en mémoire, ça ?
Oui, ça me reste en mémoire parce que, d'abord parce que c'était l'arrivée de ces ordiphones dans le grand public. Donc, c'était un truc voilà, qui arrivait des États-Unis, qui était très stylé, que tout le monde voulait, en fait.
Ouais.
Et moi, j'ai tout de suite eu le sentiment que ça allait être un fil à la patte supplémentaire. Et donc, j'ai été la seule de l'équipe d'associés à le refuser. Et pour moi, c'est assez symptomatique. Et je me souviens des regards incrédules qui m'ont entourée et que j'ai souvent croisé depuis.
Donc il y a un refus, là, très net, hein, qui s'écrit finalement. Et on va entendre une autre figure du refus, on pourrait presque dire les choses comme ça, qui traverse aussi votre travail. C'est celle de Bernard Moitessier, ce marin anti-Vendée Globe, on pourrait dire les choses comme ça.
Anti-course, à vrai dire, anti-compétition.
On va écouter sa voix, c'était en 1968.
Mon monde à moi, ça n'est pas la société moderne. Ça n'est pas cette société de consommation, ça je ne marche pas, je ne marcherai jamais pour ce truc-là.
Partout le monde moderne veut foutre ses pattes, en même temps il fait des saletés.
Alors il faut le replacer dans le contexte, hein, Bernard Moitessier, même si beaucoup s'en souviennent, parce qu'il a eu un acte qui a beaucoup marqué d'ailleurs le monde de la navigation en août 68. Donc il aborde son bateau, le Joshua, dans la première course à la voile en solitaire et sans escale autour du monde. Et au fil des mois, il se passe quelque chose pour lui.
Oui, il le raconte dans le récit de cette course qui s'appelle La Longue Route.
Oui.
Il parle de cette délibération intérieure, c'est-à-dire que tout d'un coup, il doute très franchement de son souhait réel de rentrer, de passer la ligne d'arrivée, de rentrer victorieux. Et finalement, au terme de cette délibération intérieure, il va choisir de ne pas rentrer, donc de ne pas accéder à la victoire, mais plutôt de continuer en mer, parce qu'il se rend compte que c'est ça dont il a réellement envie.
Je continue sans escale vers le Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être pour sauver mon âme.
Oui, il y a ce choix-là, ce refus de la victoire, il est accompagné de toute une réflexion de sa part sur le monde très mercantile, très consumériste,
ouais.
Qu'il a laissé pour plusieurs mois pendant sa navigation et qu'en fait, il n'a pas du tout envie de retrouver. Et je crois que c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point quand on s'en éloigne, quand on fait une pause de ce système consumériste, à quel point on le voit mieux avec du recul et qu'on se pose la question, effectivement, d'y retourner ou pas. Quoi.
Ouais. Ça a été très inspirant pour vous, cette figure de Moitessier ?
Oui, ça a été très inspirant, et puis je trouvais ça intéressant de convoquer une figure qui ne soit pas un grand penseur de l'écologie politique, un intellectuel, un universitaire,
mm-hmm.
de décaler un petit peu le référentiel. Et je trouvais que ce choix de Moitessier était vraiment intéressant aussi à réexaminer depuis aujourd'hui, en fait.
Corinne Morel d'Arleux, votre nouvel ouvrage s'appelle « Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes ». Il évoque aussi un voyage en bateau. On va en parler avec vous dans un instant et puis on évoquera vos engagements personnels et votre vision aussi de la vie politique à laquelle vous avez participé.
France Inter. La Terre au carré.
C'est le couple politique du moment. Ensemble, ils avaient appelé à voter non à la Constitution européenne en 2005. Ensemble, Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon battent la campagne sous la bannière du Front de Gauche.
Ah oui, on est multicarte, on fait multi-région.
Oui, oui. Il n'y a pas un endroit où vous n'avez pas un gars, il passe dans le bus, tout de suite, un coup de klaxon, l'autre, il est dans la rue, il vient toucher la main. Bon. Vraiment, il y a quelque chose de populaire autour du Front de Gauche. Et rien que ça paye des peines qu'on peut se donner. Hein.
Ça, c'est en 2009, une archive avec Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon, le Front de Gauche en campagne. Corinne Morel-Darleux, vous qui êtes notre invitée et qui avez pendant quelques années été membre du Parti de Gauche, que vous avez cofondé donc aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes pour le Parti de Gauche pendant 10 ans. Quand vous regardez cette période politique, hein, qui n'est plus aujourd'hui votre quotidien, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Alors j'en retiens d'abord une vraie formation politique, hein, c'est-à-dire que moi j'ai quand même énormément appris en étant au Parti de Gauche, notamment les premières années, parce qu'on avait des personnes qui venaient de plein d'horizons et de plein de traditions différentes de la gauche. Moi je venais plutôt des milieux de l'écologie radicale, de la décroissance, mais on avait des personnes qui venaient de la République sociale de Jaurès, on avait des syndicalistes, on avait quelques libertaires, donc on parlait de parti creuset à l'époque et il y avait beaucoup de débats politiques et de discussions politiques très fécondes entre nous. Beaucoup de rencontres aussi. Moi, j'ai énormément sillonné le pays pendant toutes ces années pour aller rencontrer les militants, pour organiser des réunions publiques, pour participer à des débats.
Vous avez aimé cette vie-là ?
Moi, j'ai beaucoup aimé cette vie-là.
Ça Parce que vous êtes arrivé tard en politique, hein. Vous aviez quoi, 34 ans, c'est ça ?
Oui, oui, oui. C'est vrai que moi, je n'ai pas été formée dans les organisations de jeunesse et je m'en suis beaucoup félicitée, je dois dire.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que je trouve que c'est bien d'avoir vécu de manière autonome et d'avoir pu développer son esprit critique. Les organes de jeunesse sont quand même un peu des lieux de formatage, je trouve, idéologiques.
Ah oui ?
Et je l'ai souvent constaté. Ouais, je suis sévère, mais je crois que je suis assez lucide. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté et je trouve que c'est bien de pouvoir se faire sa propre expérience, d'avoir vécu aussi autre chose que la politique avant d'en faire son activité principale, ce qui a été mon cas avec mes 2 mandats de conseillère régionale. Je suis quand même contente d'avoir eu avant d'autres expériences, d'avoir été salariée, d'avoir fait d'autres choses. En fait, je trouve que ça apporte une dimension, une expérience qui sont quand même utiles quand on entend représenter des personnes.
Et aujourd'hui, vous vous présentez comme éco-socialiste, hein ?
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Alors en fait, moi j'étais au Parti de Gauche en charge de monter le programme, tout ce qui concernait l'écologie en fait, hein, ce qui était très large, hein, puisque c'était à la fois les transports, le logement, l'énergie et l'environnement. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas tant l'écologie que l'écosocialisme qu'on avait envie de défendre comme projet politique, c'est-à-dire une manière d'aborder les questions de justice sociale et d'écologie dans le même mouvement, sans qu'il y ait de hiérarchie entre les deux, tout simplement parce que en réalité, on se rend assez vite compte que les causes des injustices sociales et de l'urgence écologique sont à chercher du même côté, du côté du système de production capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a fait un gros travail de redéfinition, de réactualisation de l'écosocialisme.
Et pourquoi vous avez quitté la politique, Corinne Morel-Darleux ?
J'ai quitté la politique pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois qu'au bout d'un moment, on perd un peu cette espèce de feu sacré qu'on a quand on s'engage. Parce que la politique institutionnelle, c'est aussi un jeu de rôle qui est très théâtralisé. Et que au bout de 10 ans, à en fréquenter les coulisses, on commence à moins y croire, d'une part. Et puis d'autre part aussi parce que le timing de la politique institutionnelle, des élections, me semblait de plus en plus décalé par rapport au sentiment du urgence et de gravité qui m'habitait, notamment par rapport à la question justement de la crise environnementale, climatique, de la biodiversité, et que je ne pouvais plus me contenter d'attendre qu'on ait conquis le pouvoir pour être dans l'action.
Et il y a eu quoi ? Une sorte de désenchantement, on pourrait exprimer les choses comme ça ?
Oui, de désenchantement, mais peut-être aussi simplement d'envie d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai jamais cessé, quand j'ai été élue, de continuer à fréquenter des milieux plus alternatifs, plus anarchistes, plus autogérés, des milieux paysans, libertaires. Et je voyais petit à petit que c'était plutôt dans ces réseaux-là que j'assistais aux réflexions stratégiques qui me semblaient les plus poussées, aux actions qui me semblaient avoir le plus d'impact, et qu'en plus, ces réseaux là, pour certains, faisait l'économie de la médiatisation et de la communication politique, ce qui me semblait très intéressant, parce que moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis militante, et donc j'ai vu l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux, et la manière dont tout ça est venu parasiter et faire dévisser même le niveau du débat politique, et la manière surtout dont, insidieusement, la communication politique a pris le pas sur l'action politique. Et donc, je trouve que des réseaux qui ne misent pas tout sur la communication gagnent un temps très précieux pour, voilà. Pour agir, tout simplement.
Et ça, vous en avez discuté avec vos collègues de gauche, justement, du parti de gauche, de ces critiques-là que vous formulez à ce micro ?
Oui, on avait des discussions en interne. Après, très honnêtement, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, dans le système actuel, est inhérent à la pratique. C'est-à-dire que c'est même pas une question de bonne volonté ou de sincérité. Quand vous êtes aujourd'hui dans un parti politique qui se présente aux élections, vous êtes obligé de facto d'être très présent sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous êtes obligé d'être visible et donc d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie, quelle que soit la sincérité et la volonté que vous y mettez.
Mais est-ce que ça veut dire que vous ne croyez plus en la capacité aujourd'hui de la politique, justement, de mener concrètement des actions pour faire changer le monde ?
Disons que je crois surtout que le pari qui consiste à mettre toutes nos forces dans cette bataille électorale est aujourd'hui un pari très risqué, très hypothétique, et qu'il convient de peut-être réfléchir à d'autres modes d'action.
Alors lesquels, par exemple ? Quels sont ceux qui, à votre avis, seraient beaucoup plus efficients ?
Ben, moi, j'aime bien parler d'actions performatives, hein, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas uniquement revendicatives, des actions qui ne consistent pas à être le plus nombreux possible au même endroit avec une seule et même revendication pour peser sur un gouvernement, un préfet ou quelque institution que ce soit, mais des actions qui portent en elles-mêmes leurs propres revendications. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, je le trouve très parlant, une anecdote qui m'a été rapportée dans les quartiers nord de Marseille, de riverains qui étaient excédés parce que les voitures passaient à toute vitesse devant une école élémentaire, qui avaient demandé des ralentisseurs qu'ils n'obtenaient pas, et qui ont fini par s'organiser collectivement pour prendre des grands pots de peinture et pour peindre des zébras au sol. Bon, ben voilà un exemple d'action performative. Mmh. Et il y a en réalité beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a déléguées à l'État, aux institutions, qu'on pourrait tout à fait se réapproprier de manière collective en s'auto-organisant au niveau d'un quartier, au niveau d'une commune, au niveau d'un immeuble. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait, il me semble, de plus en plus.
Corinne Morel-Darleux, vous dites on change plus de vie dans une cantine que dans un hémicycle. La lutte par l'assiette. Illustration avec cet extrait du média Fracas, c'était la semaine dernière.
Sur un piquet de grève ou lors de rassemblements, vous avez peut-être déjà mangé à prix libre grâce à une cantine solidaire. Et bien aujourd'hui, on est le 10 septembre et je vous emmène en cuisine.
Bienvenue au bar à nous. Donc là, aujourd'hui, on est mobilisé pour préparer un peu des repas, pour alimenter les lieux de blocage, les piquets de grève.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, les mouvements de grève durent très peu de temps. Il y a à peu près 70 ans, ils duraient trois fois plus. Et une des raisons majeures, c'était que tout à chacun avait un petit potager chez lui, chez elle, et pouvait donc ravitailler les piquets de grève, les piquets de lutte. Donc si nous, on peut nourrir le plus de monde possible à prix libre, ben on vient compenser ce manque de sécurité sociale de l'alimentation.
Extrait du média Fracas avec un slogan « Tous pourris, sauf nos légumes ». Corinne Morel-Darleux, pour parler justement de ces luttes performatives, là on a une action concrète là. Hein.
Tout à fait. On en a de plus en plus, il y a une espèce de remontada de l'autogestion, on l'a vu notamment au moment du Covid, c'était un peu aussi pour pallier aux déficiences, aux défaillances de l'État, des pouvoirs publics, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont activées ou réactivées du côté des cantines, mais c'est aussi tous les collectifs sur des luttes locales, les ZAD, la culture squat, l'éducation populaire, les chantiers reprises de savoir. Voilà tout ce qui s'organise pour ne pas dépendre uniquement du bon vouloir de l'institution et reprendre une partie de ce pouvoir exorbitant qui lui a été délégué et dont elle fait parfois mauvais usage.
C'est cette idée d'archipéliser les luttes ? C'est un terme que vous employez, hein ?
Oui, d'archipéliser effectivement les îlots de résistance, c'est-à-dire de ne pas chercher à à avoir un organisme centralisateur, mais plutôt de fédérer des personnes qui s'organisent en collectif un peu partout sur le territoire, qui mènent des luttes locales, qui montent des cantines, des réseaux de ravitaillement des luttes, et de créer en fait une culture commune, une stratégie commune, un horizon commun, même si on ne parle pas toutes et tous du même endroit, qu'on n'a pas les mêmes parcours politiques, mais en tout cas d'essayer effectivement de tirer dans le même sens.
Mais justement, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez plus aujourd'hui à un grand basculement à l'échelle nationale et que tout se fait au fond au local, comme ça, sur les territoires?
Mais je crois qu'en fait, il ne s'agit même pas de croire ou pas aujourd'hui, il s'agit vraiment de repartir du réel. On est quand même dans une situation qui est de plus en plus dramatique, que ce soit au niveau de la montée de l'extrême droite, de gouvernements autoritaires un peu partout sur la planète, de l'arrivée des fake news, de l'urgence climatique, de l'extinction de la biodiversité, et des conséquences, on y est là en fait. En ce moment, voilà, on parle de la multiplication des cas de chikungunya en France métropolitaine et ça a l'air de faire sursauter personne. En fait, on y est là, ça y est, on est dans le dur.
Quand le président américain Donald Trump qualifie le changement climatique de plus grande arnaque au monde, comme il l'a fait là cette semaine lors de son discours devant l'ONU, en dénonçant la duperie de l'empreinte carbone, l'homme le plus puissant du monde qui a appelé justement les pays membres des Nations Unies à cesser les politiques écologiques et à miser sur le pétrole. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, franchement, quand ça vient d'un type qui est aussi capable d'imaginer créer une Riviera à Gaza, pour moi, c'est, enfin, je veux dire, il n'y a absolument plus une once de crédibilité, en fait, dans le discours de Donald Trump. Alors, évidemment, malheureusement, il est président des États-Unis d'Amérique, ce qui est évidemment une catastrophe à l'échelle planétaire. Mais pour moi, c'est une raison supplémentaire pour créer, justement, une contre-culture, pour tenir bon sur les questions d'honnêteté intellectuelle, pour tenir bon sur la question de la dignité, de l'éthique, et pour continuer plus que jamais de redoubler d'ardeur à faire de la politique autrement et à ne pas dépendre uniquement de ces dirigeants qui sont en train de perdre la tête un peu partout à la surface de la planète.
Corinne Morel-Darleux, on va parler dans un instant de votre rencontre avec le public en tant qu'autrice. Ça s'est fait autour d'un livre, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. On en parle dans un instant et puis aussi d'une autre navigation qui fait l'objet de votre actualité.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je pense que des temps difficiles s'annoncent, où nous aurons besoin d'écrivains capables d'envisager des alternatives à notre mode de vie, de voir au-delà de notre société anxieuse et de ses technologies obsessionnelles, d'envisager d'autres façons d'être, d'imaginer de véritables raisons d'espérer. Nous aurons besoin d'écrivains capables de se souvenir de la liberté, de poètes, de visionnaires, pour voir plus loin. À l'heure actuelle, je pense que nous avons besoin d'écrivains qui connaissent la différence entre la production d'une marchandise et la pratique d'un art.
C'était en 2014, la voix de l'autrice américaine Ursula Le Guin, et vous dites d'elle, Corinne Morel-Darleux, que vous vous êtes trouvée en petite fille d'Ursula Le Guin, tant certains de ses textes vous donnaient l'impression d'être en train de deviser au coin du feu avec une vieille dame douce et attentive, provocatrice, juste un peu la grand-mère parfaite.
Oui, tout à fait. C'est notamment, il y a bien sûr les romans, mais aussi les textes d'Ursula Le Guin qui ont été regroupés aux éditions de l'Éclat et que moi j'ai vraiment lu avec beaucoup de bonheur, beaucoup de complicité. En plus, elle a un humour absolument ravageur. Moi, j'ai vraiment pouffé en la lisant, tout en apprenant des choses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à la lire et beaucoup d'intérêt.
Ouais, et sur ce qu'elle vient de dire là, dans ses propos, il y a plus de 10 ans, hein. Encore une fois.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup battue pour défendre ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, qui étaient considérées un peu comme un sous-genre de la littérature, la science-fiction, la fantasy. Et moi, j'aime beaucoup son approche, qui est une approche que je rapproche un peu de ce que les anthropologues appellent des moments perspectivistes, c'est-à-dire des moments où on change de perspective dans notre manière de regarder le monde. C'est des romans ou des textes qui permettent de décadrer un peu le regard, de faire un pas de côté et dont on sort pas complètement indemne, avec un rapport au monde qui a légèrement changé, et je trouve que ça, aujourd'hui, c'est effectivement très précieux.
En 2018, vous publiez votre premier livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, qui va avoir un destin inattendu pour vous. D'où vient d'abord ce titre ?
Oh là là, je crois que j'ai passé quasiment autant de temps à trouver le titre qu'à écrire le livre. Il vient en fait d'une devise de marin qui dit au départ évidemment exactement l'inverse,
ouais.
Qu'il vaut mieux flotter sans grâce que couler. Et je me suis amusée à l'intervertir, je trouvais que ça collait bien effectivement aux propos que je développe dans le livre. Et donc voilà, c'est parti effectivement de cette première publication.
Mais qui était très incertaine au fond, non ? Parce que vous vivez au fin fond de la Drôme, c'est ça, au moment où sort le livre, vous faites appel à un éditeur Libertalia qui n'est pas très connu, et puis ça fonctionne.
Ah, c'était totalement inattendu, effectivement. On n'avait pas mis toutes les chances de notre côté. Moi, c'était mon premier livre. Libertalia, c'est une maison d'édition indépendante, anarchiste. Et donc, voilà, on ne s'attendait pas à faire un grand succès de librairie, pour être tout à fait honnête. Et en fait, ce petit livre est parti comme une traînée de poudre, a été beaucoup défendu par les libraires, puis par les lectrices et les lecteurs qui l'achetaient parfois sur son titre, et puis qui revenaient, les libraires me disaient, mais les gens reviennent, ils les achètent par paquet de 10.
Ouais.
Et en fait, ça s'est beaucoup diffusé comme ça, de la main à la main, sous les radars médiatiques. C'est une très belle histoire et qui continue aujourd'hui.
Ouais. Alors, c'est en sous-titre Réflexion sur l'effondrement, mais comment vous analysez en fait la façon dont ce livre a touché à ce point le public ? C'est quoi votre lecture, vous, là-dessus ?
Je pense que ce qui, en tout cas si j'en crois les nombreux témoignages que je reçois, ce qui a touché c'est d'abord le fait que je m'implique dans le livre, c'est pas un essai universitaire qui reste à distance de son sujet.
Il y a beaucoup de jeux, vous parlez à la première personne, d'ailleurs ce que vous faites dans tous vos ouvrages.
Tout à fait, je parle à la première personne et surtout je ne tais pas mes doutes, c'est pas un essai à thèse où j'essaye de faire avaler de force des idées aux lectrices et aux lecteurs. J'y fais part de mes convictions politiques, mais j'y fais aussi beaucoup part de mes questionnements, de mes interrogations, de mes doutes.
De votre vie aussi, il y a des fragments de vie dans ce livre, à chacune des pages quasiment.
Tout à fait, et je crois qu'il est arrivé à un moment qui, hélas, se prolonge, qui est un moment où beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur ce qu'il convient de faire, ce qui est juste, ce qui est digne, comment s'organiser collectivement, quel type d'engagement privilégier, et donc c'est venu probablement capturer un peu de l'air du temps. Et donc, beaucoup de personnes s'y reconnaissent, y puisent de la force, y puisent parfois même le courage de changer de vie, ou en tout cas d'amorcer des ruptures importantes dans leur quotidien.
Oui.
Et je crois que voilà, ce qui est fort, c'est quand on lit une personne qui a réussi à mettre des mots, à formuler des choses que l'on ressent intuitivement sans forcément vraiment réussir à les préciser.
Ce succès, donc, il arrive, vous vivez dans la Drôme, je le disais.
Tout à fait.
Isolé, quand même, dans un coin de la Drôme assez isolé. Et comment, justement, ce succès vient percuter votre vie, là ?
Alors, bon, je vis effectivement dans un petit village de la Drôme, mais j'ai jamais cessé d'être beaucoup en déplacement, beaucoup à la rencontre du public, qu'il soit militant ou le public des librairies, des écoles, des collèges, des lycées,
oui,
de la
vous
fac.
Vous vivez pas en ermite.
Donc, je vis pas du tout en ermite. C'est plutôt une sorte de port d'ancrage, on va dire, pour moi, la Drôme. Mais j'ai toujours été en déplacement. Et en rencontre, donc c'est pas vraiment venu percuter ça. Par contre, c'est vrai que je me suis dit que c'était mieux pour moi d'avoir mon port d'ancrage dans la Drôme qu'à Paris, parce que je pense que sinon j'aurais vraiment été happée dans un tourbillon dans lequel j'aurais pu vite me perdre.
Pourquoi vous avez choisi ce territoire d'ailleurs, que choisissent aussi d'ailleurs beaucoup de Parisiens aujourd'hui ? Il y a un microcosme quasiment drômois.
Oui, tout à fait, que j'ai vu d'ailleurs se développer. Moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis dans la Drôme, et c'est vraiment le pays en fait. C'est les paysages, c'est la vie locale, et puis c'est la proximité avec la nature, en fait. C'est de vivre entouré de montagnes, de forêts, mais aussi de vignes, d'espaces cultivés. C'est cet endroit qui est vraiment à la lisière, en fait, entre les activités humaines et des lieux où il n'y a plus d'activités humaines. Cet espace de lisière, moi, il me plaît énormément.
Votre dernier livre s'appelle « Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes ». Il est né d'une expédition océanographique dont vous nous aviez parlé d'ailleurs dans La Lutte Enchantée l'année dernière, Corinne Morel-Darleux. Et enfin, le livre sort là. Vous qui aviez beaucoup parlé de Bernard Mautessier, donc le navigateur, est-ce que vous aviez déjà navigué sur un voilier avant de vous mettre à vivre cette expérience ?
Alors non, je n'avais jamais navigué. Je crois que la seule fois où j'étais montée à bord d'un voilier, c'était quand je faisais un stage en Allemagne. C'était pour une journée, on avait mangé des knackis à bord.
Ouais.
Je me souviens, c'était pas une expérience inoubliable. Donc je n'avais jamais navigué.
Et alors c'était quoi l'objet en fait de cette aventure ?
Alors en fait, je suis partie avec une expédition scientifique organisée par Under the Pole et des scientifiques du CNRS qui visent à étudier ce qu'on appelle les forêts animales marines dans la zone mésophotique, c'est-à-dire la zone située entre 30 et 200 mètres de profondeur sous la surface des océans. Et donc, Under the Pole m'avait proposé justement de venir à bord en me disant que mes livres étaient déjà sur le voilier et que ce serait super que je puisse les rejoindre. Et donc, je suis partie un mois avec elle et eux, avec l'idée justement de les aider à rendre visible l'invisible.
Donc cette zone-là particulière de la mer
Cette zone mésophotique qui est très peu explorée parce que techniquement c'est compliqué comme plongée, c'est des plongées très techniques, très difficiles, et que donc cette zone est assez méconnue et déjà extrêmement menacée par le dérèglement climatique, mais aussi par les activités humaines, notamment de chalutage.
À quel endroit vous l'avez vécu cette navigation ?
Alors là, le voilier en l'occurrence était au large de l'île de Roatán, au Honduras, et donc il y avait un récif en particulier sur lequel les plongeurs et les scientifiques se rendaient chaque jour pour faire des prélèvements, des échantillonnages, mesurer le courant et vérifier si les coraux avaient une fonction de forêt, c'est-à-dire est-ce que les coraux noirs, les gorgones, modifiaient le courant, modifiaient le microclimat et permettaient de créer des espaces dans lesquels il puisse y avoir une sorte de pouponnière pour les poissons, les mollusques, les crustacés.
Et la réponse, alors, quelle est-elle ?
Et ben, la réponse, elle est encore en cours d'étude, mais on a quand même une forte présomption que oui.
Ça a été une aventure littéraire aussi pour vous d'écrire sur un bateau, Corinne Morel-Darleux. Est-ce que vous avez voulu vous inscrire dans ces récits qui, je vous cite, on l'entend, fait battre les cœurs tout en éveillant les consciences ? Et vous citez par exemple Joseph Kessel, Balzac, George Sand. Il y avait un peu de cet héritage-là aussi dans ce projet littéraire ?
Alors, il y avait effectivement cette envie-là, en tout cas. Et puis, il y avait aussi l'aspect feuilleton, en fait. Parce que j'écrivais un jour sur deux.
Ouais.
Et au fur et à mesure que j'écrivais, j'imprimais à bord et je faisais lire à l'équipage.
Mmh.
Et ça, c'est vrai que c'est très inédit pour moi. Parce que quand on écrit, c'est souvent un acte extrêmement solitaire. On n'a pas de retour au fur et à mesure, en direct. Et là, j'avais mes lectrices et mes lecteurs directement sous la main, ce qui était évidemment pour moi très très motivant et très plaisant.
Donc vous avez feuilletonné aussi ?
J'ai feuilletonné, exactement.
Et on retrouve ce style justement dans cet ouvrage. Donc il y a l'aventure scientifique et puis il y a le projet littéraire aussi dans cet ouvrage donc, qui sort également chez Libertalia. Vous êtes resté fidèle à votre éditeur indépendant.
Tout à fait.
Malgré le succès.
Oui.
Et ça s'appelle « Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes ». Merci beaucoup, Corinne Morel-Darleux, d'être venue au micro de La Terre au Carré.
Merci à vous.
Et le 3 octobre, vous serez à Montreuil, justement, pour une rencontre autour de votre livre.
À la librairie Libertalia.
Merci à vous.
Merci.